Est-ce que vous êtes prêts?
J'attendais ce moment avec impatience.
Attention, qu'est-ce qu'il y a? Un.
Bonjour.
Deux.
Bonjour.
Trois.
Eh bien, je vous écoute.
Parfait. Vous savez pourquoi nous sommes ici?
J'écoute, qu'est-ce que vous avez à me dire?
Surtout pas d'illusions.
Qui dois-je annoncer?
Cinérama.
Oui, j'ai entendu parler de ça.
Charmé de vous connaître.
Ça fait plaisir. J'ai besoin de savoir ce que signifie cette histoire.
J'ai le sentiment très net que vous tournez autour du pot.
Que désirez-vous faire?
Chaque semaine, chronique, interview et blind test.
C'est aussi simple que ça.
Je n'arrive pas à le croire.
Vous êtes différent.
Ravi de vous l'entendre dire.
Qu'est-ce que vous attendez? Un roulement de tambour?
Vous n'avez pas tout à fait tort.
Bonjour, un Summer Copio aujourd'hui. Nous allons parler de Sound of Freedom et de Vincent doit mourir, mais aussi d'un film québécois, Marine, et pas seulement.
Oui, moi je vais vous parler de mon coup de cœur du dernier festival de Cannes. Il s'agit de Simple comme Sylvain, le nouveau film de Monia Chokri. Et donc je vais vous parler également un peu plus généralement du cinéma québécois qu'on connaît assez peu finalement.
Et ça nous donnera l'occasion de jouer au jeu, deviner le titre québécois que voilà. Nous écouterons également Patrick Bouchité à l'occasion de la ressortie de Lune froide, film en compétition à Cannes dans les années 90. Une vieille interview que je n'avais jamais eu l'occasion de monter. Mais nous commençons avec un homme qui est agressé à plusieurs reprises et sans raison. Par des gens qui tentent de le tuer. C'est Vincent doit mourir.
Non mais bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Vous voulez rire?
Connerie, 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 je vous dis. Et même saloperie, hein.
Vous êtes beaucoup trop bavard.
Cinérama.
Tu t'appelles comment?
Vincent. Je sais pas si tu te souviens, mais tu m'as agressé hier soir.
Le pessimisme forcené du titre, derrière lequel se cache une ironie mordante, ne doit pas décourager le spectateur qui ne se fierait qu'aux apparences. Alors non, Vincent doit mourir n'a rien à voir avec un drame dépressif ou un mélo pleurnichard sur un pauvre type atteint d'une maladie incurable. Vincent est un monsieur tout le monde, un mec normal, si tant bien que la normalité existe, qui mène une existence tranquille et bosse dans une agence de pub à Lyon. Son quotidien bascule du jour au lendemain. En plein travail, un stagiaire s'approche de lui et le tabasse avec un ordi portable sans aucune raison. La séquence surprenante rompt la quiétude d'un film qui s'annonce dès lors comme excitant. Alors si vous m'écoutez, l'effet de surprise est éventé, mais si vous ne souhaitez pas en savoir davantage, revenez dans quelques minutes. Voilà, le pauvre Vincent, lui, ne comprend pas ce geste violent, d'autant que le stagiaire interloqué ne sait pas pourquoi il a agi ainsi. La direction, désarçonnée, met l'incident sur le dos d'un stress passager, d'un moment de dérèglement sans conséquence. Sauf que le lendemain, un autre collègue, même un ami depuis longue date, s'en prend aussi à Vincent et à nouveau sans pouvoir expliquer le sens de son geste. Alors plus tard, en rentrant chez lui, inquiet, des enfants sur le palier de son appartement vont faire de même. Dès lors, le cauchemar ne fait que s'intensifier et le pauvre Vincent n'a plus qu'une idée en tête, fuir loin d'une humanité qu'il l'a pris pour cible.
J'étais à mon poste de travail et on m'a agressé. Il y a une absence au niveau du regard et ils foncent sur moi. J'ai l'impression qu'il y a un délire autour de moi, quoi.
Pour son premier long métrage, Stéphane Castan et son scénariste Mathieu Nart ont imaginé un monde anxiogène plongé dans un chaos perçu du point de vue d'une victime qui n'arrive pas à expliquer la situation. Alors tout le début d'une efficacité redoutable provoque chez le spectateur autant le rire que l'effroi. Dès le début, on ressent le désarroi et l'incompréhension de Vincent. Les auteurs reprennent les codes usités du film d'infection à tendance post-apo dans le cadre d'un pur film de genre français qui se double d'une réflexion sur notre rapport à la violence, sur le délitement des rapports sociaux. Les thèmes les plus variés nous viennent à l'esprit sans que l'on puisse trancher. Pandémie, burn-out, terrorisme, paranoïa, toutes les interprétations sont possibles. Le film nous rappelle aussi, par une démonstration implacable, pas très subtile mais efficace, que sans les autres, nous ne sommes rien, réduits à l'invisibilité totale.
T'as pas l'impression, toi, des fois que le monde entier est en vue ?
Ouais, ça m'arrive, ouais.
L'humour grinçant du début disparaît progressivement pour laisser place à un pur film de terreur, brillamment réalisé, où la gestion de l'espace, magnifiée par un très beau scope, n'est pas sans évoquer, alors toute proportion gardée, le cinéma de John Carpenter. Stéphane Castan parvient à créer une tension par la seule puissance de ses plans, au cordeau, son montage serré et son sens de l'ellipse. Alors on tient presque. L'un des meilleurs films de genre français vus depuis des lustres, d'ailleurs avec le récent Le règne animal. Alors pourquoi presque? Parce que le film ne tient pas totalement son sujet, ne file pas assez droit et en voulant être plus complexe, donc plus français, injecte une dimension psychologique qui alourdit un peu l'ensemble. Lorsque Vincent rencontre Margot, d'ailleurs très bien servie par une vue malaponce toujours aussi rayonnante, le film amorce donc une histoire d'amour plutôt convenue, s'enlise dans des dialogues filmés en champ contre champ qui nous sortent un peu du récit et surtout qui tranchent avec le reste souvent impressionnant. Alors malgré ses réserves assez récurrentes finalement dans notre cinéma, Vincent doit mourir est un film d'horreur teinté de comédie, alors pour le mieux, et un peu de romantisme pour le moins bien en fait, qui mérite le déplacement alors pour son ton singulier, ses irruptions gore surprenantes, son atmosphère inquiétante, et puis Karim Leclou, très présent cette année, mais moi je l'avais vu dans peu de films, est plutôt bon. Et dans un petit rôle, Raphaël Quenard confirme son statut d'acteur qui monte à vitesse fulgurante cette année.
Vincent doit mourir est en salle depuis le 15 novembre. Après Vincent, voici Simple comme Sylvain de Monia Chokri et un gros plan sur le cinéma québécois.
Et maintenant,
Cinérama,
tout est parfaitement en ordre.
Chez Platon, l'amour est intrinsèquement lié à la notion de désir.
Bonne nuit.
Bonne nuit. Je t'aime.
Moi aussi, je t'aime.
Sophia est professeure de philosophie à Montréal et vit en couple avec Xavier depuis 10 ans, avec qui elle partage de passionnantes conversations, une culture générale assez dense et une vision du couple résolument moderne, centrée sur la liberté de chacun et sur une vision non exclusive de l'amour. Sylvain est charpentier, il ne lit pas de livres, il aime les plaisirs simples et il est embauché pour rénover leur maison de campagne. Quand Sophia rencontre Sylvain, c'est le coup de foudre. Elle décide de quitter Xavier pour se consacrer à cette passion nouvelle. Mais alors, est-ce que l'on peut dire que les opposés s'attirent ou est-ce qu'au contraire, qui se ressemblent s'assemblent?
Ah ouais, c'est beau au Québec. C'est romantique.
Ouais.
J'avais passé une fin de semaine là-bas avec ma blonde à l'époque. On avait fait un tour de calèche, on avait mangé dans une place de fondue bien fancy et on avait fini par faire un trip à trois avec la serveuse.
Ah!
Ouais.
La réalisatrice Monia Chokri poursuit son exploration de l'impossibilité de l'amour, de la relation amoureuse en tant que construction sociale. Elle explique d'ailleurs que selon elle, les films romancent beaucoup trop la rencontre amoureuse tout en ignorant leur environnement social, alors que c'est pourtant fondateur de ce que va devenir un couple. Loin d'être un manifeste anti-patriarcat, le film s'interroge au travers de son personnage principal sur l'évolution de la vision de l'amour hétérosexuel au cours des époques et fait le choix souvent de privilégier la tendresse à l'humour ou à la moquerie, même si le film demeure très fin et très caustique. Plutôt que de proposer une peinture cynique de différentes classes sociales, Simple comme Sylvain propose un merveilleux portrait de femme qui hésite entre le rat des villes et le rat des champs, l'un la comblant sur le plan intellectuel, l'autre sur ses désirs un peu plus primaires, le sexe, l'amusement, la passion. Une femme qui a 40 ans, qui est plus vibrante que jamais et qui ne veut pas d'enfants sans que cela soit un sujet traité dans le film. Et on manque cruellement de ce genre de représentation au cinéma.
J'ai couché avec mon coach de sport. Ouais, tu m'as inspiré. J'ai la meilleure relation à vie.
Oh, bah, ça.
Drop the mic.
Ça m'étonne pas.
Mais je comprends pas.
Vous faites l'amour tout le temps avec Philippe.
Ouais, puis ça n'a rien à voir. C'est des expériences complètement différentes.
Mmh. Avec lui, je sais pas. Il me regarde, il m'admire.
Puis il y a des jeux sexuels.
Comme quoi?
Des menottes?
On se crache dans la bouche. Deux vrais petits lamas.
Il semble tout pas.
Il m'insulte.
Philippe?
Mais non, coach Hakim.
Intéressant.
Je sais pas ce que ça dit sur moi.
C'est l'actrice québécoise Magali Lépine-Blondeau qui interprète Sophia. Et Magali Lépine-Blondeau, eh bien, c'est un peu la Virginie Efira québécoise. Belle, douée, blonde, solaire, à l'aise dans l'émotion et dans le rire. Elle a commencé comme animatrice télé, puis a fait ses armes dans des comédies. Et aujourd'hui, elle a encore davantage élargi son registre. Elle a également brillé dans la mini-série La nuit où Laurier Gaudreau s'est réveillé. Une très bonne série signée Xavier Dolan, qui a malheureusement eu du mal à trouver son public. Et d'ailleurs, le cinéaste, suite à ce nouvel échec, a déclaré récemment qu'il arrêtait le cinéma. Simple comme Sylvain, ce fut l'un de mes coups de cœur au dernier festival de Cannes. C'est fin et cru, impertinent et touchant, et c'est une preuve supplémentaire du talent en permanente évolution que Monia Chokri affirme de film en film. Oui, car Simple comme Sylvain, c'est le troisième film de Monia Chokri, une réalisatrice désormais célèbre au Québec qui commence à se faire un nom en France. Et la première fois que vous avez vu Monia Chokri, c'était sans doute dans ce film. Amour imaginaire dans lequel elle campe la meilleure amie de Xavier Dolan qui réalise également le film, prise dans un triangle amoureux avec le jeune Nils Schneider. Elle va retrouver par la suite, hein, le comédien d'ailleurs, dans son premier film en tant que réalisatrice, La femme de mon frère, l'histoire d'une jeune femme qui vit une relation fusionnelle avec son frère, jusqu'au jour où, en allant avorter en sa compagnie, elle provoque sans le vouloir un coup de foudre entre eux, son frère et sa gynécologue. Pour ce premier long métrage, Monia Chokri a reçu le prix Coup de cœur en 2019 à Cannes. Par la suite, elle retourne à ses premières amours en jouant dans son second film Babysitter, qui reprend le trope de la babysitter sexy et tentatrice, mais pour en faire une relecture très féministe qui flirte avec le fantastique et avec l'absurde, un film à la mise en scène plus radicale, plus fouillée, un poil trop ostentatoire sans doute, mais qui a le mérite de s'affirmer.
Alors, c'est votre deuxième avortement, c'est bien ça?
Mais le premier, j'avais 19 ans, ça compte pas vraiment.
Est-ce que vous faites du sport?
Pas mal, quand même.
Donc, c'est votre petite amie qui va vous raccompagner après l'intervention?
Non.
Non.
Oui?
Enfin, je suis son frère.
C'est ma soeur.
Non, je suis sa soeur.
Un film qui nous permet également de profiter donc de ses talents de comédienne, puisque Monia Chokri, c'est tout de même une trentaine de films en tant qu'actrice. En France, on l'a vu dans Réparer les vivants de Catel qui les verrait, plus récemment dans Falcon Lake de Charlotte Lebon, et son tout premier rôle, eh bien, c'était dans un film québécois, L'âge des ténèbres de Denise Arcan, aux côtés de Diane Kruger. Une réalisatrice élevée par des parents militants communistes qui, à 41 ans, représente une certaine modernité au travers de son engagement contre les violences au sein du cinéma, comme elle le déclarait fort bien lors du dernier festival de Cannes. Je pense que le génie, c'est de faire un chef-d'œuvre, mais en étant quelqu'un de bienveillant, à l'écoute, et ses qualités n'empêchent en rien de créer du sublime. Ceux qui ont un certain pouvoir ont la responsabilité de faire en sorte que les gens autour d'eux se sentent bien. Aucune œuvre ne justifie que l'on brise des gens.
Simple comme Sylvain est en salle depuis le 8 novembre.
This is Cinérama.
Alors maintenant, Marine, tu as décidé de faire le point un peu sur le cinéma québécois qu'on peut voir en France.
Eh bien oui, tout à fait. Qu'est-ce que le cinéma du Québec, finalement, celui d'où nous vient Monia Chokri, hein, donc la cinéaste de Simple comme Sylvain? Car à part cette tendance à renommer les films en traduisant leur titre anglais de façon littérale, on connaît finalement assez peu ce qui fait les particularités du cinéma québécois. Au Québec, il existe un lien très étroit entre l'art et la politique, du moins c'est ce qu'ils revendiquent. L'identité québécoise est un élément fondateur de leur cinéma et les cinéastes de tout temps ont toujours plus ou moins abordé cette question identitaire, cette recherche identitaire dans leurs œuvres. On aborde souvent la relation du Québec au reste du Canada, le Québec depuis son existence qui, visiblement, aurait toujours été un peu considéré comme le mouton noir du Canada. Et en défendant sa langue et ses traditions, entre autres au travers de ses films, donc, eh bien, le pays revendique son identité. Avant Xavier Dolan, qui débarque sur nos écrans en 2009 avec « J'ai tué ma mère » et en étant à peine majeur, la France avait déroulé le tapis rouge à un certain Denis Arcan, qui, malgré une carrière très longue et prolixe, hein, il a aujourd'hui 82 ans, connaîtra surtout le succès à l'international avec le déclin de l'Empire américain et les invasions barbares, Oscar du meilleur film étranger et plusieurs fois césarisé également.
C'est pas trop dur de voir son mari à l'hôpital?
Ça fait 15 ans que je l'ai mis dehors de la maison. Alors qu'il soit ici ou dans son appartement en train de sauter des étudiantes, ça change pas grand-chose à ma vie.
Faut pas recommencer ça, Louise. Là, tu sais très bien que ça fait des années que je n'ai pas sauté, comme tu dis, une étudiante.
Entre ses documentaires et ses fictions, le cinéma de Denis Arcan aborde souvent le syndicalisme, la corruption et le nationalisme, des thématiques donc éminemment politiques. On connaît également Jean-Marc Vallée, décédé récemment à l'âge de 58 ans, à qui l'on doit Dallas Buyers Club, car lui a commis quelques digressions hollywoodiennes, également Café de Flore avec Vanessa Paradis, mais aussi Crazy, le film qui a réalisé le plus d'entrées en 2005 au Québec.
Pour refuser la plus belle chose qui peut arriver dans la vie, d'avoir des enfants. Il n'y a rien de plus beau.
On entend dans cet extrait hein, cette langue particulièrement chantante, cette langue qui a d'ailleurs été le sujet d'une polémique récemment et en même temps depuis un certain temps également. Beaucoup de journalistes s'indignent que l'on sous-titre les films québécois lorsqu'ils sont diffusés en France. Ce fut le cas lorsque la dernière série de Dolan a été diffusée sur Canal+. Elle a été sous-titrée donc en français de France, comme on dit, ce que beaucoup de journalistes québécois jugent dégradant, en arguant que la langue de Xavier Dolan, je cite, en dit beaucoup sur les conditions sociales et culturelles de ses personnages, ce qui participe à la compréhension plus globale de son œuvre. On estime ainsi que la traduction en français de France filtre la poésie et le vocabulaire si particulier du Québec. Alors personnellement, en tout cas à Cannes, j'étais bien contente quand même, enfin, je suis bien contente d'une façon générale d'avoir des sous-titres en anglais quand même, voilà, quand on voit des films québécois. Pour terminer, juste une petite information que j'ai trouvée très charmante. Le saviez-vous ? Au Québec, on ne dit pas second rôle, on dit rôle de soutien. Et je trouve que ça en dit long sur la bienveillance de la mentalité québécoise.
Alors, tu parlais de la traduction des films au Québec, qui sont des traductions, les titres de films sont traduits différemment que sur le territoire français. Il y a souvent des traductions littérales, mais ce n'est pas tout le temps le cas. Et on va jouer à un petit jeu hein, pour voir eh bien, comment les films ont pu être traduits au Québec, sachant que dans ces exemples de films hein, que vous allez entendre, dans la plupart des cas, les titres n'ont même pas été traduits en France. On commence par Pulp Fiction. Comment ça a été traduit ?
Fiction sanglante, j'imagine.
Alors, fiction pulpeuse. Ensuite, Dirty Dancing.
Bah, danse dégueulasse.
Alors, danse lascive. Trainspotting.
En transportant.
Non, ferrovipat. Alors là, évidemment, c'est compliqué. Speed.
À toute allure.
Alors ça, bah non,
c'est ça.
Mais non, mais ça aurait pu être vitesse ou je ne sais quoi, mais c'est clenche. Alors ça, c'est une expression québécoise, j'imagine. Eh oui.
Aussi.
Chicken run.
La course des poules.
Non.
Poulet, cours, poulet, cours.
Poulet en fuite. Kill Bill.
Tuer Bill.
Oui, eh bien, c'est une bonne réponse. Scary movie.
Film de cauchemar.
Alors, film de peur, non,
ah,
non c'est assez littéral. Et on va terminer par In the Mood for Love.
Bah, dans une ambiance de l'amour.
Non, ça n'a rien à voir. Les silences du désir. Voilà. Donc là, c'est une interprétation, c'est un peu ce qu'on peut voir en France aussi. This is Cinérama. Passons à l'interview de cette émission, celle de Patrick Bouchitet.
Par ici, s'il vous plaît.
Cinérama.
Mais avec joie.
En 1991, sortait Lune froide, le premier film de Patrick Bouchitet. Alors, à l'origine, Lune froide est un court-métrage réalisé par ce même Patrick Bouchitet, d'après une nouvelle des nouveaux contes de la folie ordinaire de Charles Bukowski. Il en a ensuite réalisé donc un long-métrage, dopé au rock'n'roll et traversé par un esprit de liberté. Ce long-métrage en noir et blanc met en scène Simon et Dédé, Jean-François Stévenin et Patrick Bouchitet. Deux zigotos paumés, mélancoliques, mais toujours capables d'être joyeux et insolents, qui errent dans une société qui ne les comprend pas. En filigrane, à travers différents flashbacks, apparaît le tabou de la nécrophilie, car au détour d'une nuit d'ivresse, ils braquent un camion de la morgue qui cache ce qu'ils n'ont jamais connu. On écoute Patrick Bouchitet, que j'avais pu rencontrer il y a un peu plus de 10 ans hein, quand même. Nous avions surtout parlé de La meilleure façon de marcher, de Claude Miller, film que j'admire beaucoup, mais un peu de Lune froide quand même.
Dément, elle n'a pas l'air morte. Madeleine Nichon. Les cuisses. La chatte. Bon Dieu.
Le thème, c'est vraiment un thème de la solitude de beaucoup d'hommes en province, du côté des ports. Nous, on a tourné ça du côté de l'Orient. Oui, mais la nouvelle de Bukowski, c'est pas ça. Il se trouve qu'ils embarquent un cadavre. À une nuit de pleine lune, ils sont un peu bourrés, ils sont comme deux gamins. C'est le côté chiche, on le fait, quoi. Et puis ils embarquent cette espèce de linceul, et puis il se trouve que quand ils, au bout d'un moment, ils sont amenés à découvrir ce qu'il y a dans le linceul, et c'est une superbe créature qui est irréelle, évidemment, parce que une morte, c'est pas comme ça, hein. Mais bon, ça le fait, quoi. Et un des deux personnages, le personnage de Stévenin, tombe amoureux de cette morte. C'est des garçons qui n'ont pas accès à ce genre de femmes, quoi, qui voient toujours les femmes à travers un miroir, à travers une glace. Enfin, ils sont assez paumés, quoi. Et c'est un peu le cadeau de Noël. Alors là, ils en profitent et puis ils la ramènent. Et en fait, c'est une sirène. Et ils lui redonnent la vie en la ramenant à son élément, c'est-à-dire la mer. Elle reprend vie. Voilà, c'est assez poétique. Moi, je n'ai pu faire ce film-là. Je n'ai pas du tout traité de la nécrophilie. Il se trouve que oui, elle est morte, mais bon, c'est dans l'imaginaire, quoi. C'est pour certains un rêve, d'autres pour un cauchemar, mais c'est pas un film réaliste du tout.
Non, sans déconner, je suis amoureux, le père. Faut déjà être givré pour tomber amoureux d'une femme vivante. Et toi, t'en pinces pour une morte? Pas dans la merde? Je suis amoureux, moi.
C'était d'abord un court-métrage qui a eu un succès véritable. Et ensuite, c'est devenu un long-métrage produit par Luc Besson. Il a fallu reprendre les mêmes.
C'est pas tout à fait comme ça. Oui, c'est vrai que le court-métrage a eu beaucoup de succès. Il a eu le premier prix à Clermont-Ferrand. Et puis, après, j'ai rencontré Luc et on a décidé de coproduire. Parce que je lui tiens bien, c'est quand même une coproduction que j'ai fait avec Luc, qui m'a aidé à monter financièrement le film. Mais Mais c'est important, quoi. C'est pas uniquement lié à Luc, le film. Voilà, puis il a eu son histoire. Il a été évidemment, il a représenté la France au Festival de Cannes, en compétition officielle. Donc ça a été un grand moment d'émotion, évidemment, dans cette grande salle, de voir le film fini pour la première fois avec tout ce monde et tout ça, avec les gens qui étaient pour, les gens qui étaient contre. Hein. Voilà, c'est des moments dans la vie assez intenses.
Dédé, tu fais aucun effort.
Ah.
Oui. T'es égoïste, t'es méchant, laisse-moi finir, et je pense que t'es un sale mec. Finalement. Oui. Alors je me demande ce que je fous à passer tout mon temps avec un as pareil.
Mais t'es libre, hein? On n'est pas mariés.
Et la musique? Ah, tu parles toujours de la musique. T'as jamais été foutu d'apprendre à jouer d'un instrument.
Oh ouais, ça va.
Une fois, t'es parti pendant 3 mois avec un grand projet, puis t'as fait la quebasse. C'est pas étonnant que ça ait foiré, tu fais une connerie à la minute. Oh. Tout le monde le sait, tout le monde te fuit. On veut pas te faire confiance. Et les femmes? Ah bah c'est même pas la peine d'en parler. Parce que pour toi c'est des trous, t'as aucun respect.
Ah parce que toi t'en as du respect? Putain, si les sirènes pouvaient parler.
Le long métrage, contrairement au court, enfin lui va prendre son temps. Donc vous jouez un personnage qui a pas de boulot, qui est très très farceur, enfin voilà, qui vulgairement fait chier son monde quand même.
Un personnage un peu mythomane qui veut faire de la musique et qui branle rien, branleur, voilà, qui est un peu toujours en train d'être chez sa sœur, enfin qui vit dans une caravane, et il est paumé, quoi. Et puis qui a ce copain, ils sont copains ensemble parce que sinon ils seraient seuls, quoi. Donc il y a des moments où ils ne supportent pas, où ils s'engueulent, mais il y avait beaucoup de fraternité derrière tout ça. Ce qui m'intéressait justement, c'est d'aller un petit peu dans la profondeur de ces personnages. J'ai trouvé ça assez émouvant, ces deux paumés comme ça. C'est ce que j'aimais chez Bukowski, ce que je dirais la poésie des poubelles un peu. Voilà, alors il rencontre des personnages, une espèce de road movie aussi, hein. Ils bougent comme ça avec cette espèce de voiture. Ils vont à droite, à gauche, ils se saoulent la gueule. Il faut bien dire que l'alcool est important, comme chez Bukowski. Puis voilà, ils ont un secret en commun, cette fameuse nuit où ils ont fait une grosse connerie. Et puis voilà, le film tourne autour de ce secret en commun.
Il y a quelque chose de fascinant, hein, quand on regarde le long métrage, parce qu'il y a tous ces personnages qui arrivent avant, qui sont tous plus ou moins déglingués. Il y a une espèce de soirée. Alors vous ramenez justement bien une femme qui est prête à faire l'amour avec les deux sur la plage. Et c'est là que le souvenir réapparaît. Enfin, là, il y a aussi une espèce de contraste entre cette beauté immaculée de cette femme morte et puis cette fille sur la plage qui dit bah oui, ça me fait pas peur, deux hommes. Enfin,
Oui, il y a cette espèce de liberté, il y a quelque chose de charnel et il n'y a pas d'interdit, quoi. Puis ils sont dans la déconnade, quoi. Voilà, ils sont à la recherche de comment tromper leur solitude et c'est pas par manque de enfin pour moi ça me paraissait salutaire, quoi, et libératoire. Quand on a joué ça, ça n'a pas été facile tous les jours, mais il y avait un côté, un vent de liberté, quoi, que je retrouvais toujours dans la lecture de ces auteurs américains, que ce soit Shelby, Fonte, Bukowski, tous ces auteurs-là m'ont toujours... je trouvais qu'ils étaient assez justes en côté humain des personnages. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pu adapter sa nouvelle, quoi. Grâce au fait aussi qu'à la fin, ce qui n'est pas dans la nouvelle de Bukowski, que cette sirène reprend vie quand elle retrouve la mer, quoi.
Il est amoureux ? Amoureux, 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 il est amoureux !
Après Lune froide, vous êtes remis facilement du tournage. Moi, j'ai rencontré Jean-François Stévenin à Toulouse, qui m'a dit que c'était quand même un tournage assez éprouvant, et visiblement même pour vous.
Jean-François, il s'est jamais vraiment remis de Lune froide. Il y a un truc qu'il a vécu assez mal, il est toujours resté très braqué sur ce film, alors que je le trouve magnifique dans le film, d'émotion. J'ai réussi, non sans mal, je dirais, à tirer de lui des choses à laquelle je tenais et qui sont au plus profond de lui. Et c'est quelqu'un d'assez pudique. Là, on a été quand même assez loin et c'était très conflictuel. Hein. J'avoue qu'il ne m'a pas facilité la tâche toujours et il garde toujours ce souvenir... J'ai une petite anecdote, mais quand même, à Cannes, on était en compétition officielle et je me souviens très bien, ça m'avait quand même assez choqué, qu'il ne s'était pas dans cette grande salle pour présenter le film assis à côté de moi, mais il était à 5 rangs derrière. Donc ça voulait quand même... Il a eu du mal à cautionner. Et tout le monde lui dit, mais t'es formidable dans ce film, les gens aiment bien le film, tout ça, mais lui, il n'a jamais pu réellement... Alors, il faudra lui demander pourquoi, et je ne suis pas sûr qu'il puisse le dire.
C'était Patrick Bouchitet qui nous parlait de Lune froide, son premier film, qui est à nouveau en salle depuis le 15 novembre. Un ancien agent fédéral américain va tenter de sauver des centaines d'enfants prisonniers de trafiquants sexuels, c'est Sound of Freedom.
Avez-vous remarqué qu'on tourne de moins en moins de films d'action actuellement?
Oui. Cinérama.
Le monde devient philosophique.
C'est le réseau criminel international qui connaît la plus forte croissance au monde. Il a déjà dépassé les ventes d'armes illégales. Et il surpassera bientôt le trafic de drogue. Parce qu'un sachet de coke, on peut le vendre une fois. Mais un enfant, on le vend 5 à 10 fois par jour. Les enfants de Dieu ne sont pas à vendre.
Après des mois de controverses alternant, paradoxalement, avec une invisibilité énorme et bien calculée dans les médias français, voilà que le film tant décrié Sound of Freedom débarque sur notre territoire et qui plus est en salle, soit l'occasion de ne pas se défiler et de voir ce que ce projet vaut. Alors ce que l'on sait et ce que probablement beaucoup redoutent quant aux résultats en France, c'est que Sound of Freedom, que ce soit dû aux polémiques ou non, est l'un des plus énormes succès de l'année dans son pays d'origine. Alors imaginez, pour un investissement d'environ 15 millions de dollars, ce qui n'est vraiment pas grand chose pour un film brassant ce genre et ce genre de thème, mais il en a rapporté plus de 200. Alors de quoi faire oublier ses origines tant pointées du doigt au pays de l'oncle Sam? Eh ben non, car même s'il met en scène un sujet qui devrait faire consensus auprès de tout le monde, soit la lutte contre la traite des enfants et les réseaux pédophiles, son sujet s'efface encore et toujours derrière ses commanditaires. Mais au-delà de ces polémiques, que vaut Sound of Freedom artistiquement parlant et en tant que simple film?
Tu fais ça depuis combien de temps? 12 ans maintenant. Combien de pédophiles t'as arrêté?
288.
Combien d'enfants t'as retrouvé?
Alors je dis bien au-delà de la polémique, car s'il y a bien une chose que l'on ne trouve pas dans Sound of Freedom, c'est justement tout ce qui préoccupe les critiques. Alors le film a beau avoir été produit et créé par des chrétiens et dont une partie du casting est proche de la mouvance complotiste QAnon, force est de constater que Sound of Freedom n'est pas ni plus ou ni moins caricatural ou simpliste que les nombreuses palmes d'or de ces dernières années comme Spotlight, Moonlight ou les autres films récompensés comme Green Book. Alors il est même peut-être un petit peu moins du fait qu'il aborde son sujet grave, non pas pour l'aseptiser par des partis pris naftalinés, mais qui fait il fait prendre tout le temps conscience de la gravité de l'histoire de base. Alors il aurait été bien sûr très mal vu de faire n'importe quoi avec le rap d'enfant, mais après tout Hollywood, et quel que soit le bord politique qui a permis de produire ce genre de film, n'aurait pas été à son premier faux pas.
On ne va pas aller sauver des enfants du Honduras en Colombie. Alors elle va disparaître, c'est fini. Imagine, tu entres dans sa chambre, là, maintenant, et tu trouves le lit vide. Qu'est-ce qu'on ferait?
Il faut que tu démissionnes, et que tu ailles sauver ses enfants.
Sound of Freedom raconte l'histoire vraie d'un ancien agent fédéral américain, Tim Ballard, qui, au péril de sa vie, a mis en place une opération de sauvetage pour libérer des centaines d'enfants prisonniers de trafiquants sexuels. Alors c'est une semi-fiction, franchement très proche de la réalité lorsqu'on regarde les vrais états de service très impressionnant du vrai Tim Ballard, et un prétexte pour les réalisateurs du scénario qui veulent sensibiliser le public à la réalité de la traite des enfants. Alors qu'importe les délires complotistes des adeptes de QAnon qui imaginent qu'on soustrait à des enfants de quoi permettre de vivre plus longtemps, car dans Sound of Freedom, il n'y a absolument rien de tout cela. L'obédience chrétienne de son héros s'arrête à la grande phrase du film. Lorsqu'on lui demande pourquoi il a fait ça depuis autant d'années, il répond que les enfants de Dieu ne sont pas à vendre. Et c'est tout. Et le film n'est réellement rien de plus, ce qui en fait un handicap pour ceux qui aimeraient y voir un quelconque film définitif sur le sujet. Alors même l'acteur Jim Caviezel, même s'il est habité par le rôle, il n'est pas forcément plus bouleversant qu'ailleurs, lui qui pourtant a su être un Jésus-Christ d'exception dans le non moins exceptionnel La Passion du Christ de Mel Gibson il y a maintenant 20 ans, et qui est présent au générique en tant que producteur exécutif. Alors pour le réalisateur Alejandro Monteverde, s'il y a un sujet qu'il peut unir tout le monde, c'est celui de mettre fin à la traite des enfants. Nous en sommes toujours convaincus, la traite des enfants n'est pas une question de droite ou de gauche. Ben, il a bien raison. Hein. Donc on verra ben, si la proximité de la sortie du film avec la journée mondiale hein, de la prévention d'abus envers les enfants, soit le 19 novembre, et de la journée internationale des droits de l'enfant, soit le 20 novembre, ben, motivera le public français autant que les Américains sur ce sujet ben, aussi dramatique dans une époque qui n'est déjà malheureusement pas en manque ben, d'horreur humaine bien mal récupérée par le monde politique.
Alors ?
C'est fini l'heure des visites, on va fermer. Du large.
Quoi ?
Vous avez délivré le message, adieu.
C'est une idée fantasque.
Terminé pour aujourd'hui. J'ai passé un très bon moment.
C'est vrai ?
Ça se termine toujours comme ça. Il ne me reste que vous remercier de votre générosité.
La semaine prochaine, nous parlerons du dernier David Fincher et de How to Have Sex. Et puis, le blind test va revenir. À la semaine prochaine.